Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Nous avons chanté la puissance de Dieu, la gloire de Dieu ce matin. Nous continuons dans cette même pensée, dans la méditation que nous allons maintenant, dans laquelle nous allons passer un temps. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, c'est le texte de notre méditation de ce matin. Exode chapitre 13, à partir du verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Succoth, et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le titre de cette méditation, c'est « Le chemin qui zigzague ». On apprend en mathématiques que le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Pour aller d'un point A à un point B, s'il y a divers chemins à prendre, le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Vous trouvez dans une place, une grande place, vous êtes au point A, vous voulez aller au point B. Il y a plusieurs chemins pour aller de A à B. Mais le chemin le plus court, c'est celui qui va tout droit de A vers B. Pourtant, quand nous examinons nos vies, quand nous regardons la vie des hommes de Dieu dans la Bible, nous demandons si parfois pour Dieu, le chemin le plus court entre le point A et B n'est pas un autre chemin. Un chemin qui zigzague. Dans notre vie, nous nous trouvons en un point A. Et il nous semble que Dieu veut nous conduire à un autre point B. C'est une conviction intime que nous avons, que c'est la volonté de Dieu de nous conduire vers ce point B. Dans notre pensée, le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Mais dans la réalité, Dieu nous conduit par un autre chemin. Il nous conduit par un chemin détourné. Un chemin qui zigzague. Imaginons par exemple que vous êtes embauché récemment dans une boîte d'informatique. Vous commencez au bas de l'échelle. Mais vous aimez votre métier, vous aimez votre travail. Votre patron est satisfait de vous, vos collègues vous apprécient. Certains vous prédisent une belle ascension dans la boîte, dans l'entreprise. Pour vous, la ligne droite, c'est d'être nommé un poste de responsabilité, d'être au bureau, au troisième étage, vous voyez déjà votre nom inscrit sur la porte. Pour vous, la ligne droite, c'est d'être nommé d'abord dans un poste, ensuite dans un autre, et enfin arriver au troisième étage, à ce poste de responsabilité, c'est le point B, c'est le point d'arrivée. Le chemin que vous visualisez, c'est une magnifique ligne droite, une belle ligne droite. Mais si c'est Dieu qui vous conduit, il vous donne l'impression de vous conduire sur un chemin différent, un chemin étrange, parce que vous changez bien de bureau, vous changez bien de service, mais vous ne gravissez pas vraiment les échelons. Pour vous, le point B, c'est peut-être aussi une chose que vous voulez faire pour le Seigneur, dans l'Église. Vous êtes chrétien, et pour vous, le point B, c'est d'être nommé dans un ministère bien précis. Vous mettez à réfléchir à votre parcours, et vous visualisez le chemin le plus court, le chemin droit, une belle ligne droite qui vous mène au point B. Et vous voyez dans votre esprit les étapes suivantes. Les responsables viennent vous voir pour vous demander votre participation à ce ministère précis, ce ministère que vous désirez. Vous le faites avec joie, vous vous débrouillez bien. Les frères et sœurs apprécient ce que vous faites. On vous demande enfin de devenir le responsable de ce ministère, vous êtes arrivé au point B. C'est la belle ligne droite que vous avez visualisée dans votre esprit. Mais si c'est Dieu qui vous conduit, ces voies sont parfois étranges et différentes de tout ce que vous aviez imaginé. Au lieu de vous demander de vous investir dans ce ministère précis que vous avez tellement désiré, on vous demande de travailler pour le Seigneur dans un autre domaine, un domaine qui ne vous intéresse pas vraiment, un domaine pour lequel vous n'avez pas beaucoup de capacité. Ce matin, j'aimerais que nous réalisions que parfois, Dieu nous fait prendre un chemin qui n'est pas la ligne droite, pour nous faire atteindre la destination, le point B qu'il a pour nous. J'aimerais que nous comprenions que Dieu nous conduit parfois délibérément sur un chemin détourné, un chemin qui zigzague. Consciemment, volontairement, intentionnellement, Dieu nous conduit sur une autre route. J'aimerais que nous voyions pour quelles raisons il nous fait prendre ce chemin détourné. Quel est son dessein quand il nous fait prendre ce chemin qui zigzague? Qu'est-ce qu'il veut accomplir en procédant de cette manière? J'aimerais pour terminer que nous puissions découvrir comment Dieu nous soutient, comment il nous encourage et nous garde en mouvement quand le chemin qui zigzague est long et qui nous semble ne pas progresser vers le but. Pour bien saisir que Dieu nous conduit parfois délibérément sur un chemin qui zigzague, nous allons considérer une période de l'histoire du peuple d'Israël où Dieu a délibérément conduit le peuple par un chemin qui zigzague. Le point A, c'est le pays d'Égypte, où le peuple d'Israël était esclave pendant 400 ans. Le point B, c'est les pays de Canaan, la terre promise. Les enfants d'Israël savent que c'est la volonté de Dieu qu'ils se rendent en Canaan. Ils savent également que c'est Dieu lui-même qui va les conduire dans la terre promise. Pourtant, on va voir que Dieu les conduit dans une direction opposée. Le point A, c'est le pays d'Égypte. Le point B, c'est Canaan. On lit dans l'histoire du peuple d'Israël qu'ils ont été esclaves pendant 400 ans en Égypte et Dieu a fait pleuvoir 10 plaies sur le pays d'Égypte et à la suite de ces séries de 10 plaies, Pharaon a plié le genou. Il a capitulé, il a demandé au peuple instamment de quitter l'Égypte. « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. » Pharaon va dire à Moïse quand dans la nuit, tous les premiers-nés vont être décimés. Le point B, c'est Canaan. Israël a rendez-vous dans le pays de Canaan avec son Dieu. C'est à Canaan que sont enterrés Abraham, Isaac et Jacob. C'est le but. C'est là que Dieu veut emmener le peuple d'Israël. Or, le chemin le plus court entre le point A, l'Égypte, et le point B, Canaan, consiste à longer la côte méditerranéenne en empruntant une route relativement droite, qui part de Goshen en Égypte, traverse le pays des Philistins et pénètre en Canaan. En suivant cette ligne droite, le peuple prendra à peu près 10 jours pour arriver à Canaan. Mais Dieu ne fait pas prendre au peuple, le peuple d'Israël, cette ligne droite qui longe la côte méditerranéenne. Dieu les emmène dans une direction opposée. Et j'aimerais que nous relisions Exode chapitre 13, versets 17 à 18, nous voyons que Dieu conduit délibérément Israël dans un chemin opposé. Verset 17, Exode chapitre 13, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. » Voyez là que Dieu n'a pas choisi le chemin le plus direct, le chemin le plus court. Il nous a dit qu'il ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Et le verset 18 nous dit que « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge, dans la direction opposée. » Dieu emmène délibérément le peuple d'Israël sur un chemin étrange, un chemin différent, un chemin opposé, un chemin qui zigzague, une direction vers le sud, vers la mer Rouge. C'est volontairement, intentionnellement que Dieu emmène Israël dans la direction opposée. Il arrive, frères et sœurs, il arrive, chers amis, que Dieu nous conduise par un chemin qui zigzague, un chemin différent du but qu'il a pour nous. Pourquoi agit-il ainsi? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il accomplit en nous faisant faire un tel détour. Dieu nous emmène par un chemin qui zigzague parce qu'il sait que s'il nous faisait prendre la route droite, la route la plus directe, nous n'arriverions jamais à destination. Il sait qu'il y a sur la route une chose qui nous empêcherait d'atteindre le but, le point B. Dieu qui désire que nous arrivions à destination nous fait, dans sa sagesse, emprunter un chemin différent. Notons bien ce que dit l'Écriture au verset 18. « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. » Un peu avant, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Là, il nous est parlé de guerre. Le peuple ne savait pas, mais Dieu lui savait. C'est intentionnellement qu'il a fait prendre ce chemin détourné parce qu'il a parlé de guerre. Le peuple pourrait voir la guerre et retourner en arrière. Et donc ne jamais atteindre le point B qui est Canaan, même désirer y aller. Donc il y avait une guerre sur la route qui aurait, sur cette ligne droite, qui aurait empêché au peuple de continuer jusqu'à Canaan. Alors, de quelle guerre l'Écriture veut-elle parler? Il faut savoir tout d'abord qu'il y avait de nombreuses forteresses égyptiennes placées tout le long de cette ligne droite. C'était un axe commercial. Et ces forteresses avaient pour but de défendre la route commerciale des ennemis de l'Égypte. La Syrie, Ninive, Babylone, située au nord, utilisaient cette route pour mener leur invasion en Égypte. Donc il y avait de nombreuses forteresses égyptiennes placées sur l'itinéraire le plus court, la ligne droite. Il y a aussi le fait qu'en empruntant le trajet direct, la ligne droite, les Israélites auraient dû traverser le pays des Philistins et affronter ce peuple guerrier. D'une manière ou d'une autre, Dieu sait qu'il y a un obstacle sur la route directe qui pourrait empêcher son peuple d'atteindre sa destination. Dieu savait que son peuple n'était pas prêt pour la guerre. Ils ont été esclaves pendant 400 ans en Égypte. Ils n'avaient aucune préparation militaire. Ils ne faisaient que des briques, ramasser de la paille, de la boue, faire des briques. Ils n'avaient pas de préparation militaire. Ils n'avaient pas non plus de cohésion nationale, et on a besoin de ça pour une armée solide. Et s'ils devaient emprunter le chemin le plus proche, ils rencontraient donc une difficulté pour laquelle ils n'étaient pas préparés, et ils auraient préféré retourner au point A, comme vous et moi, quand il y a des problèmes, eh bien on fait marche arrière. Et le peuple trouverait la guerre, n'étant pas préparé, n'ayant pas de cohésion, il reviendrait en arrière. Il reviendrait au point A, l'Égypte. Dieu voulait aussi les conduire au sud, dans le désert. Mais pourquoi là? Pourquoi dans le désert? Eh bien, le désert était l'endroit où Israël aurait été enseigné par Dieu pour préparer son entrée dans la terre promise. Ça aurait été leur institut biblique pour préparer leur entrée en Canaan. Il fallait ensuite que ce peuple ne se considère plus comme une nation d'esclaves. Pendant 400 ans, vous dites, à la fin, nous ne sommes que des bons à rien, nous ne savons faire que des briques. Nous sommes des tapis, voilà. Mais il fallait que ce peuple réalise qu'il était le peuple aimé de Dieu. Il était le peuple aimé de Dieu. Dieu allait leur parler. Dieu allait prendre soin d'eux. Dieu allait leur donner des principes de sagesse qu'aucune nation ne connaissait. Mais il fallait surtout que le peuple apprenne à compter sur Dieu. Il fallait qu'il apprenne à compter sur Dieu. Et vous savez qu'est-ce que Dieu allait faire? Dans le désert, Dieu va épuiser leurs réserves pour que le peuple réalise par l'expérience que Dieu peut pourvoir à tous leurs besoins d'une façon inimaginable. Rappelez-vous la manne, tous les jours, la manne tous les jours. Une expérience qui se répète pour qu'on retienne bien la leçon. On peut compter sur lui tous les jours il connaît nos besoins, tous les jours il pourvoit nos besoins. Et puis, Canaan n'allait pas être conquis avec la fleur au fusil. Il aurait fallu combattre. Et donc le peuple aussi devait apprendre l'art de la guerre et affronter une armée solide, aguerrie, ce n'est pas une préparation. On va commencer à aller tout petit et on va affronter les Amalécites un peu moins aguerris. et développer les capacités militaires et finalement apprendre cette vérité essentielle que nous devons aussi retenir. La victoire n'est pas dans la force humaine. La victoire n'est pas dans la grandeur d'une armée. La victoire n'est pas dans la puissance de l'arsenal de l'armée. La victoire vient de l'Éternel. Chers amis, chers auditeurs, Dieu sait que parfois, il y a sur la route la plus droite, la route directe, un obstacle qui nous empêcherait d'arriver à la destination qu'il a pour nous. Dans sa sagesse, il nous fait prendre un chemin différent, un chemin étrange, un chemin qui zigzague, pour que nous puissions atteindre de façon sûre le but qu'il a pour nous. Dans l'entreprise, par exemple, que vous venez de rejoindre, vous avez l'idée que eh bien, vous allez monter, vous allez progresser. Vous allez avoir un poste de responsabilité dans cette entreprise que vous venez de rejoindre. Eh bien, Dieu vous garde encore pour un temps dans un poste que je dirais mineur, pour que vous puissiez développer avant quelques facultés qui vont être utiles pour après, quand l'heure viendra d'occuper ce poste à grande responsabilité. Ou peut-être que Dieu ne vous fait pas encore gravir les échelons que vous auriez aimé gravir parce que le poste qu'il vous réserve est occupé par un collègue. Et ce collègue-là, tiens, il va partir à la retraite bientôt, dans 2 ou 3 ans. Donc, ce n'est pas encore le moment. Dieu ne peut pas vous conduire directement vers ce poste parce qu'il faut attendre. Ou alors, ce collègue qui est là va vous causer des ennuis. Alors, Dieu attend qu'il demande sa mutation pour libérer le poste. Vous voyez, Dieu sait ces choses-là, nous ne les savons pas à l'avance, mais Dieu les sait. En ce qui concerne le ministère dont nous avons parlé dans l'Église, que vous souhaitez ardemment et qu'on ne nous a pas confié dans l'Assemblée, Dieu ne se laisse pas impressionner par les compétences humaines. Dieu voit au cœur. Et peut-être qu'il y a dans votre cœur un orgueil qui va vous ravager si vous avez ce poste de responsabilité, qui va ravager l'Assemblée et qui va causer une catastrophe. Donc Dieu ne vous fait pas prendre la ligne droite, il vous fait prendre un chemin détourné. Dans sa sagesse, Dieu sait qu'il y a sur le chemin qui va tout droit, sur la ligne droite, un obstacle qui vous empêcherait d'atteindre le but qu'il nous a fixé. Il nous conduit alors vers un autre chemin, un chemin détourné, un chemin qui zigzague, parce qu'il sait que c'est le seul moyen sûr d'arriver à destination. Le chemin le plus court pour Dieu pour aller de A à B est alors un chemin en zigzag. Alors, dans ce chemin qui zigzague, on peut perdre courage. On se demande, j'ai rêvé ou quoi? Le chemin qui zigzague peut nous paraître pénible à suivre. Nous avons le sentiment de stagner, de ne pas avancer. Nous finissons même par douter. Nous mettons à réfléchir et à nous demander, mais si le point B existe vraiment? On conclut que finalement, ce n'était pas la volonté de Dieu que nous allions au point B. Que c'était là le fruit de notre imagination. Quand nous sommes dans un tel état de doute et de découragement, comment Dieu va-t-il procéder pour nous encourager? Comment Dieu nous soutient dans le chemin qui zigzague, le chemin avec des détours, quand nous ne voyons que des tours et des détours, quand il nous semble faire du surplace et aucun progrès? De quelle manière Dieu ravive-t-il notre joie et notre foi pour que nous continuions d'avancer? Les Écritures nous rappellent que Dieu procède de deux façons. L'Écriture nous rappelle deux choses que Dieu fera pour nous encourager à aller de l'avant. La première chose que Dieu fera, c'est de nous rappeler ses bonnes intentions à notre égard. Dans le cas des Ismaélites, le rappel des bonnes intentions de Dieu a été pour eux un cercueil. N'est-ce pas étrange? Et regardons ça au verset 19, du Exode chapitre 13, verset 19, où nous voyons que Dieu rappelle ses bonnes intentions au peuple au moyen d'un cercueil, moyen bizarre, n'est-ce pas? Au verset 19, nous lisons « Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici ». Au moment où les Israélites quittent l'Égypte, ils s'embarrassent d'un cercueil. Ils prennent avec eux le cercueil qui contient les os de Joseph. 400 ans plus tôt, Joseph avait fait jurer aux enfants d'Israël de ne pas laisser son corps en Égypte. Ils sont restés 400 ans esclaves, mais Joseph a dit « Non, vous ne laisserez pas mon corps là, vous allez le ramener à Canaan. » Joseph a été le premier Israélite à entrer en Égypte lorsque ses frères l'ont vendu comme esclave. Dieu veillait sur lui. Et il a permis qu'il devienne le premier ministre de Pharaon, le second homme après Pharaon. Plus tard, le père de Joseph est aussi venu en Égypte, ses frères sont venus en Égypte et au final, 70 personnes se rendirent en Égypte. Joseph a même pu voir les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération et les fils de Makir et les fils de Manassé. Et Joseph a pu voir quelques-uns de ses descendants. Mais avant de mourir, Joseph laisse à ses frères une mission importante. Et on voit ça dans Genèse 50, prenez avec moi, gardez un doigt dans Exode 13 et lisons cette mission importante que Genèse va laisser, que Joseph va laisser à ses frères. Genèse chapitre 50. Verset 24. On peut commencer au verset 22, Genèse 50, verset 22. Genèse 50, verset 22. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Voilà, Joseph est enterré en Égypte et voilà le moment où le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Abraham, Isaac et Jacob sont en Canaan. Le but de Dieu pour Israël, c'est qu'ils aillent dans la terre promise à Canaan. Eh bien Joseph, voilà, a dit, vous n'allez pas laisser mes eaux là. Vous allez les prendre avec vous quand vous allez partir. Il avait cette assurance que Dieu allait conduire le peuple à Canaan. Dieu vous fera sortir d'Égypte, il va vous conduire à Canaan. Faites le serment d'amener avec vous mes os, afin que je sois enterré à Canaan avec Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, 400 ans plus tard, nous sommes là, 400 ans plus tard, dans Exode 13, les enfants d'Israël sont devenus nombreux, ils sont prêts à quitter l'Égypte, et des hommes costauds, soulève le cercueil de Joseph et tout Israël se dirige vers le sud avec le cercueil de Joseph. Le cercueil les accompagne vers Canaan. Et imaginez les enfants, ils sont candides, ils ont des réflexions des fois qui nous font sourire. Mettez-vous à la place d'un petit enfant là, qui part aussi avec le peuple d'Israël, qui sort d'Égypte et qui demande à sa maman, mais maman tous les jours, on voit les gens là qui transportent une sorte de boîte. C'est quoi cette boîte? Et la maman dit à son petit garçon, mais mon chéri, c'est pas une boîte, c'est un cercueil. Et l'enfant demande à sa maman, mettez-vous à la place de cet enfant, mais c'est quoi un cercueil? La maman lui dit, mais un cercueil, c'est là où on met les gens qui sont morts. Et ce cercueil, c'est le cercueil d'Égypte, et le cercueil de Joseph. Et il y a dans ce cercueil les os de Joseph. Et vous imaginez le sourd de l'enfant, on transporte une boîte d'os avec nous, tous les jours. Pour aller à Canaan? Mais maman, je vois bien qu'on ne va pas à Canaan, on prend la direction opposée. Mais c'est dégoûtant tout ça, de transporter tous les jours des os avec nous, des os humains. Et la maman lui dit, non, on se rend à Canaan. C'est bien à Canaan qu'on va. Le cercueil va avec nous à Canaan. Et vous imaginez, frères et sœurs, chaque matin, quand les Israélites reprennent leur marche, quels que soient les zigzags que Dieu les fait faire, quels que soient les détours, le cercueil le rappelle continuellement que Dieu les conduit vers Canaan. N'est-ce pas merveilleux? Cher auditeur, au milieu de tes zigzags, Si c'est la volonté de Dieu que tu te rendes au point B, Dieu va te rappeler de diverses manières et à plusieurs reprises ses bonnes intentions à ton égard. Il veut te conduire au point B, c'est sa volonté. Et comment il va le faire? Eh bien, de diverses façons, dans tes lectures de tous les jours, de la parole. Ce sera aussi par les propos de quelqu'un qui ne connaît rien du point B, il n'est pas au courant. Mais cette personne te dit des paroles précises et tu as le sentiment, tu as ces paroles te rappellent les beaux projets de Dieu pour toi. Dieu n'est pas à court de moyens, frères et sœurs, chers amis, pour nous rappeler ses bonnes intentions, pour nous faire savoir qu'il nous emmène bien vers la destination promise, qu'il nous emmène bien au point B. C'est la première chose que Dieu fera, il va nous rappeler ses bonnes intentions. Pour Israël, c'était le cercueil de Joseph qu'on prenait tous les jours. Si on doutait, non, ce cercueil, Joseph a dit, c'est à Canaan qu'il doit aller. Et tous les jours, tous les matins, quel que soit le chemin qu'on prendra, c'est à Canaan qu'on va avec le cercueil. La deuxième chose que Dieu va faire pour nous donner un signe concret de sa présence, pour nous montrer que c'est bien au point B qu'il nous conduit, c'est de se manifester à nous d'une façon concrète, être proche de nous, nous montrer sa protection. Il va manifester de façon concrète sa proximité, sa protection, sa direction. Et vous savez quelle est cette forme concrète qui concernait Israël? Eh bien, c'est la colonne de nuée. C'est ce qu'on lit dans le texte. Et reprenez avec moi le verset 20, Exode chapitre 13, à partir du verset 20. Et cette colonne de nuée apparaît dès qu'ils sortent d'Égypte. Ils partirent, Exode chapitre 13, verset 20, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Etam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour, dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Voyez, cette colonne est là, jour et nuit. Elle ne se retire pas. Et ils arrivent, il nous est dit, au verset 20, il nous est dit, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Etam, à l'extrémité du désert. Voilà, ils vont laisser, ils vont à Etam, la civilisation, on va laisser les régions, une région civilisée, et on va entrer dans une région désertique. Le désert, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de route. Et ils n'ont pas de GPS. Peut-être qu'ils ont une boussole. Mais il n'y a aucun chemin. Comment vont-ils trouver leur chemin? Eh bien, c'est le récit qui nous dit que Dieu va leur montrer le chemin avec la colonne de nuée ou la colonne de feu. Que ce soit de jour ou de nuit, Dieu lui-même se met à la tête du convoi. Il nous a dit qu'il se place devant eux pour les conduire, pour les guider d'une manière visible, sous la forme d'une colonne de nuée le jour et une colonne de feu le soir. Que ce soit deux jours de nuit, la colonne était toujours devant le peuple. Dieu était toujours présent d'une façon concrète, d'une façon tangible. Cette colonne, c'était également Dieu qui les protégeait. Quand Pharaon réalise qu'il va perdre une main d'œuvre gratuite, corvéable à merci, eh bien, il va se mettre à les poursuivre. Il va prendre toute son armée, il va les poursuivre et les enfants d'Israël vont se trouver coincés à un moment entre la mer Rouge et les chars égyptiens. C'est alors qu'on lit au verset Exode 14 que la colonne, Dieu va se placer entre eux et les chars égyptiens. Prenons Exode chapitre 14, verset 19 à 20. Eh bien, il y a juste à tourner la page. Exode chapitre 14, verset 19. On lit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Donc il était devant, il allait derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Voilà l'Éternel qui se met entre l'armée, les chars égyptiens et le peuple d'Israël. D'un côté, du côté égyptien, on ne voit pas clair, mais du côté des Israélites, on voit clair. Dieu, voilà, il se met là, c'est une forteresse, c'est un abri, il protège son peuple. Et c'est encore de la colonne de nuée et la colonne de feu que l'Éternel va protéger son peuple lorsque les Égyptiens vont essayer de les poursuivre lors de la traversée de la mer Rouge. Regardez comment le texte nous dit ça d'une façon vraiment admirable. Toujours Exode 14, versets 24 à 25. À la veille du matin, alors on va lire au verset 22, on commence au verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec une impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël, verset 22, entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Verset 24 nous dit « À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Voilà l'Éternel, vous le voyez, qui est en train de divisser les roues de la Formule 1, les roues des chars, pour que l'armée, les chars égyptiens n'atteignent pas les enfants d'Israël quand ils traversent la mer. Vous voyez comment Dieu montre de façon tangible sa protection, sa présence, sa direction. L'Éternel protégeait son peuple. Enfin, à travers cette colonne de nuée, Dieu aussi parlait au peuple. Et quand ils sont arrivés au mont Sinaï, la colonne couvert le mont Sinaï. C'est de la colonne que l'Éternel parla au peuple, pour lui faire connaître sa volonté. Prenons Exode chapitre 19, tournons quelques pages. Exode chapitre 19. Verset 9. Exode chapitre 19, verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende que je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. On peut lire au verset 16 et 19 aussi, verset 16 et 19, pardon, du chapitre 19. « Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. » Voilà, l'Éternel parle au peuple au travers de cette nuée. Ainsi, frères et sœurs, ainsi, chers amis, au sein de nos zigzags, au sein de tous les tours que Dieu nous fait prendre, nous allons ressentir la présence, la proximité de Dieu, sa protection d'une façon concrète. Nous pourrons lui dire, tu me conduis, tu me protèges et ton esprit me révèle ce que tu veux que je sache. Dans sa bonté, Dieu nous fait parfois emprunter un autre chemin pour nous amener à coup sûr à destination. Pour Dieu, le chemin le plus court n'est pas toujours la ligne droite et c'est parfois un chemin qui zigzague. Ce chemin qui zigzague, c'est parce que c'est le seul qui nous permet d'arriver au but fixé par Dieu. Tout au long de notre marche, Dieu nous rappellera ses bonnes intentions à notre égard et nous fera sentir sa présence de façon concrète. Ces deux façons que nous avons vues pour le peuple d'Israël et que Dieu fera aussi pour nous. Nous pouvons le suivre sans crainte, même lorsque le chemin fait des zigzags. Et Dieu ne nous fera aucun mal. Eh bien, que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs. Et nous allons terminer par ce cantique qui dit justement qu'il nous conduit. Numéro 396 sur les ailes de la foi, il me conduit jour et nuit. Par des chemins détournés, mais il me conduit sûrement. Parce qu'il sait parfaitement ce qu'il y a sur tous les chemins. Numéro 396, il me conduit douce pensée, repos pour mon âme lassée. Et je vous demande, on va chanter debout ce cantique si vous le voulez bien.